Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel pour une nouvelle émission des Périphériques de vous parle de 18h à 19h sur Bande FM 106.3. Sur Fréquence Paris Pluriel pour une nouvelle émission des Périphériques vous parle avec notre ami écologue Jean-Luc Ménard pour donc la deuxième partie de ces deux émissions portant sur les solutions énergétiques au réchauffement. La semaine dernière, nous avons pu évoquer les fausses solutions, enfin en tout cas les fausses solutions globales, les limites des énergies renouvelables avec notamment l'éolien et le solaire. Et aujourd'hui, justement, bon, la COP21 étant en train de se dérouler et de se terminer, nous allons évoquer des vraies solutions énergétiques pour parer au réchauffement climatique.
Pas seulement.
Alors Jean-Luc, des solutions qui viendraient d'abord de la nature.
Oui, alors effectivement, hein, la nature, elle, c'est très simple. Elle est habituée aux alternances des réchauffements et des refroidissements. Puisqu'il se produit des réchauffements et des refroidissements lorsqu'il y a des variations de l'excentricité de l'orbite terrestre et de l'axe de la rotation de la Terre par rapport au Soleil. Bon. Rien que dans les 3 derniers millions d'années, il y a eu 60 réchauffements et 60 refroidissements. Bon. Donc la nature, elle est tout à fait...
Et quelle cause ?
Les variations de l'orbite terrestre.
Tout à fait.
Voilà, par rapport au Soleil.
Mais pas du volcanisme.
Non, c'est très rare. Non, ce sont vraiment les paramètres astronomiques.
D'accord.
Voilà, que j'ai cités. Alors, ce qui fait que la nature, elle est tout à fait. Elle suit le mouvement. Elle est habituée depuis plus de 550 millions d'années qu'il y a autre chose que des bactéries sur la planète. Elle est habituée à adopter un certain nombre de comportements. Alors, on va en voir quelques-uns. Le premier, ce que les humains appellent espèce invasive, il faut plutôt appeler ça les éco-migrations. Parce qu'en effet, actuellement, il y a à peu près les 2/3 des espèces végétales et animales qui se déplacent. Alors, elles se déplacent, ces espèces, d'abord pour leur propre bien-être. Alors, par exemple, des perruches sont arrivées d'Amérique du Sud en Europe. Les crabes chinois sont au large des côtes écossaises. Des fourmis tropicales sont au Canada, etc. Mais elles se déplacent aussi pour le bien-être d'autres espèces. Alors, par exemple, en Californie, le râle, qui est un petit passereau, se désolait de voir les plantes locales justement quitter la Californie pour... en raison du réchauffement climatique, et le râle râlait parce qu'il n'avait plus d'habitat pour faire ses nids, etc. Et puis il est arrivé une herbe qui s'appelle l'aspartine et qui lui a offert donc un nouvel habitat. Même chose aux îles Galapagos. Actuellement, dans ces îles-là, 750 espèces végétales sont en écomigration là-bas, alors soit durablement, soit de passage. Ces plantes améliorent la situation alimentaire de la plupart de la faune et surtout de la tortue géante qui disparaissait et qui maintenant a à sa disposition un goyave migrateur qui a un goût sucré qui plaît énormément et donc l'espèce repart. Et puis également les écomigrations, c'est pour réparer les écosystèmes. Alors, par exemple, Pékin, qui est un endroit particulièrement à réparer.
Ah oui.
Voilà. Là-bas, il n'y a pas moins de 112 espèces végétales, dont 48 sont venues d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud pour ça. Et le plus grand nombre d'individus de ces 112 espèces végétales sont enregistrées dans les parties de Pékin, hein, où il y a les plus intenses activités économiques, où il y a les plus intenses aménagements urbains, et où il y a également le plus de population. Alors donc, ces plantes viennent là pour justement réparer l'écosystème pékinois.
Et ces plantes-là, elles adorent les particules fines.
Voilà. Voilà. Ah, elles s'en fichent de la pollution. Hein. Ce n'est pas un problème pour elles. Enfin. Autre exemple, hein, tout à fait différent, l'Islande. Alors en Islande, hein, il y avait un problème environnemental, c'était une très grande érosion des sols. Une érosion naturelle. Ce n'était pas dû à l'agriculture intensive ou des choses comme ça, c'était une érosion naturelle. Et là-bas, hein, donc suite au réchauffement, il y avait cette érosion particulièrement importante, et les plantes locales, bah, notamment les bouleaux nains, bah, le bouleau, il ne faisait pas le boulot, hein, et c'est pourquoi le lupin Nootka, hein, qui lui, il y a pas mal de centaines d'années qu'il n'était pas allé en Islande, il était en Suède, en Finlande, etc. Il est venu en Islande, il développe une masse végétale 4 fois supérieure aux plantes indigènes, et donc l'érosion est enrayée. Donc en fait, les écomigrations, c'est un des comportements, hein, qu'ont les espèces animales et végétales. Alors ensuite, il y a les hybridations. Alors effectivement, hein, actuellement, notamment des truites, des mésanges, des écureuils volants, des moineaux des marais, etc., tout ça, ça s'hybride. Voilà. Ce qu'attendent les espèces d'une hybridation, c'est associer leurs caractéristiques respectives et développer une complémentarité dans les individus issus de cette hybridation. Alors, sur des espèces semblables, comme celles que je viens de citer, évidemment, c'est pas très surprenant. En revanche, sur des espèces différentes, c'est assez étonnant. Et par exemple, là maintenant, en Amérique du Nord, il y a le coyloup. C'est-à-dire une hybridation entre coyote et loup.
Ah oui.
Voilà. Et donc, effectivement, hein, chaque espèce se connaît très bien, depuis très longtemps, hein, et elles ont évidemment remarqué, hein, que l'une courait plus vite, que l'autre mangeait un peu de tout, etc. Hein, et donc, c'est pas un hasard. Hein. Alors, en Europe, hein, il n'y a pas de coyote, mais il y a des chacals. Hein, les chacals dorés, qui, il y a 40 ans, étaient confinés à 3-4 pays balkaniques, maintenant, sont dans une trentaine de pays d'Europe. Et ces chacals sont très proches des loups gris, qu'il y a en Europe aussi. Donc on peut, hein, peut-être, hein, voir un jour un chac-loup. Voilà. Alors les hybridations servent à ça. Hein, c'est également un comportement pour s'adapter, hein, ou à un réchauffement ou à un refroidissement, peu importe, hein, comme les autres comportements. Alors, il y a aussi des gènes d'adaptation. Alors, par exemple, hein, les peupliers, hein, le gène a été baptisé EBB1, très précisément. Et donc, les peupliers ont ce gène pour le réchauffement. Et puis, ils en ont un autre pour le refroidissement. Bon. Également, hein, plusieurs dizaines d'espèces de coraux, hein, que l'on dit au dernier degré de disparition. C'est la même chose. Hein, il y a au large des Samoa, par exemple, des coraux qui se sont adaptés à 35 degrés de température dans l'eau de mer, sans problème.
35 degrés, là.
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Hein, il y a également des coraux qui ont également des gènes pour l'acidification des océans. Hein, au large des Bermudes, par exemple, c'est le cas. Alors, l'environnement des coraux...
Oui, parce que c'est un processus quand même assez long.
Oui, mais c'est très rapide.
Qui permet justement l'adaptabilité.
Voilà. Ouais. Hein, c'est-à-dire que des gènes qui ne servaient à rien servent à quelque chose.
D'accord.
Hein, ouais. On dit que les gènes s'expriment. Hein, c'est le terme employé par les scientifiques. Bon. Et l'environnement des coraux aussi. Hein, la plupart des 200 000 espèces différentes d'algues de mer qu'il y a, hein, désormais peuvent évoluer dans des eaux à 36 degrés. Donc les coraux mangent les algues, et donc tout continue. Bon, il y a aussi... sur les terres émergées, hein, par exemple dans le nord-est de l'Angleterre, hein, il a fallu une quinzaine d'années pour que les plantes de prairies s'adaptent tout à fait au réchauffement. Hein. De même, hein, un peu partout sur la planète, les rats des bois, qui évitaient des plantes qui étaient toxiques pour eux, maintenant les mangent parce qu'ils ont des gènes qui sont exprimés pour les rendre tolérants. Bon, etc. Alors, autre comportement, les trois premiers que je viens de citer, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont habituels. Hein, c'est-à-dire que ça s'est vu, hein, avec toutes les techniques de paléoclimatique, on voit ça il y a 56 millions d'années, il y a 200 millions d'années, etc. Avec des animaux ou des plantes différentes ou semblables à celles qu'il y a aujourd'hui. Mais en revanche, le quatrième comportement est inédit, puisque, évidemment, l'écosystème privilégié des humains, c'est-à-dire les agglomérations urbaines, n'existait pas il y a 56 millions d'années ou même il y a 1 million d'années. Et là, hein, et ben, face à une nouveauté écologique, hein, puisque les agglomérations urbaines sont des écosystèmes comme les autres, là, les plantes et les animaux réagissent très bien. C'est-à-dire qu'ils investissent massivement, hein, les écosystèmes urbains actuellement. Hein. Alors, par exemple, hein, des hiboux ruraux sont devenus urbains. Les moineaux sont partis, mais les mésanges, bernaches, buses, etc. leur ont succédé. Des lapins sauvages sont dans les centres-villes, comme à Francfort, par exemple. Bon, et puis, aux États-Unis, hein, où ce phénomène est...
Alors, l'attraction, c'est quand même la nourriture.
Tout à fait. Mais justement, hein, rechercher plus de nourriture permet de résister au réchauffement, aux pollutions, enfin, etc. Donc c'est quand même de face à une réalité qu'ils ne connaissaient pas, qui se présente à eux aujourd'hui, enfin à elles, à toutes ces espèces, elles n'hésitent pas, pour bon nombre d'entre elles, à venir dans les zones urbaines et à ajouter ce comportement d'adaptation au comportement précédent, parce que j'ai dit précédemment. Alors aux États-Unis, hein, pendant 15 ans consécutifs, 250 villes des USA ont été passées à la loupe, suivies. Donc ça, c'est une observation de terrain sans équivalent ailleurs, hein, sur la planète. Ces observations, hein, ont montré une foule de choses. Alors, je vais citer que quelques exemples, parce que je ne vais pas égrener les 250 villes américaines qui ont fait l'objet de cette observation. Par exemple, à New York, dans le quartier du Queens, vivent en permanence des coyotes. À Memphis, vivent en permanence des alligators.
Et les autorités les tolèrent, hein?
Ah bah, les coyotes, le jour on ne les voit quasiment pas.
Ils vivent, ils sont pas agressifs.
Non, mais en plus, ils sont pas agressifs. Vous donnez une pastèque à un coyote, il sera ravi. Hein,
oui.
C'est son mets préféré.
Oui.
Voilà. Alors, également, hein, des lions de mer vivent dans les villes, des lions de montagne également, hein, des sortes de pumas, hein, mais aussi des dindons sauvages, hein, etc. Des marmottes à ventre jaune à Washington. Hein, et puis, à Manhattan, là, vivent en grande augmentation 42 espèces différentes de fourmis. Et surtout, elles sont encore plus nombreuses sur les trottoirs de Manhattan, même en plein jour. Alors que pourtant, on se fait écraser très facilement. Et en fait, hein, elles éliminent chaque année, hein, rien qu'à Manhattan, hein, l'équivalent de 60 000 hot dogs par an. Ah, au niveau des déchets, je veux dire.
Ah oui.
Ah, ils ont pris les talons hot dog. Bon, voilà. Voilà. Bon. Dans une ville qui s'appelle Bakersfield, en Californie, qui pourtant est située dans le comté de Kern, où il y a 80% de la production pétrolière de Californie qui se déroule là-bas, hein, il y a des centaines de renards, hein, qui ont aménagé sous des greens de golf, par exemple, hein, sous des écoles, etc. Bon. Partout. Et ils vivent, ils partagent des habitats avec entrée et chambres séparées, avec des moufettes et des chats sauvages. Également à Chicago, hein, il y a environ 2000 coyotes qui vivent dans cette agglomération de 9 millions d'habitants. Hein. Et la survie des jeunes coyotes est 5 fois plus importante qu'en milieu naturel. Hein. Les coyotes, ces coyotes ont une plus grande longévité, et donc hein, le choix. Hein, de venir dans les zones urbaines, hein, un nouveau comportement des plantes et des animaux, hein, est tout à fait un choix adéquat, pertinent. Bon, alors évidemment, il y a, mais ça, comme j'en ai parlé, on peut retrouver ça sur le site des périphériques vous parle, hein, il y a des diminutions de taille, de poids, etc. Hein, ça, j'ai déjà mentionné. Alors, au total, hein, toute cette dynamique fait que sur 6 millions hein, de lieux terrestres, marins et urbains qui ont été passés là encore à la loupe, Ah, avec des milliers de bénévoles.
6 millions.
Oui, oui, des centaines de scientifiques.
Des villes, des...
De tout. D'accord. En fait, les deux conclusions générales, hein, et qui sont communes à ces 6 millions d'endroits, hein, c'est, et qui sont donc très représentatifs, hein, de tous les écosystèmes, hein, de la planète, c'est que le nombre d'espèces animales et végétales est partout en hausse. Seulement, ce sont les variétés, hein, les genres d'espèces, qui ont été modifiées, hein, puisque certaines ont quitté, d'autres sont arrivées, d'autres sont restées. Bon, hein. Et la deuxième conclusion, c'est qu'il n'y a aucun vide écologique. C'est-à-dire que toutes les niches écologiques, hein, dans ces écosystèmes urbains, marins, terrestres, hein, aquatiques ou pas, dulcicoles, etc., hein, toutes les niches écologiques sont pleinement occupées. Bon, ce qui fait que parler de sixième extinction, hein, comme on le fait à longueur de conférence, et à la COP aussi, c'est totalement irréaliste. Ben, c'est pas le cas.
On n'a pas de méga-volcan, on n'a pas de météorite.
Non, mais ce n'est pas le cas. Oui. Bon, par ailleurs, hein, on dit qu'on est en train de vivre la sixième extinction. Hein. Bon, déjà, toutes les observations, hein, il y a des milliers de recherches issues de ces observations indiquent que ce n'est pas le cas. Et par ailleurs, hein, depuis environ 800 millions d'années que les principales caractéristiques climatiques sont en place, bah, à peu près semblables à celles d'aujourd'hui, bah, il y a eu une seule extinction massive. Il n'y en a pas eu cinq.
Oui, c'était il y en a eu deux, non, avec le Permien. Le météorite et le méga-volcan, là.
Non, il y a 370 millions d'années, 30% de l'ensemble des espèces est disparu, donc ce n'est pas une extinction massive. 215 et 85 millions d'années, 75% des espèces ont disparu, 80% des espèces marines, par exemple. Bon, ça commence à ressembler à une extinction massive, mais ce n'est pas tout à fait ça non plus. Et en fait, il y a 250 millions d'années. Alors ça s'affine un peu, hein, parfois on dit 252 millions d'années maintenant, où 95% des espèces marines et terrestres ont disparu. Bon, essentiellement, hein, parce qu'il y a eu une accélération d'un réchauffement, hein, parce que parfois il y a des accélérations. Hein, les paramètres astronomiques mettent environ 100 000 ans hein, à faire un réchauffement, un refroidissement, mais à l'intérieur de ces 100 000 ans, il y a parfois des accélérations. Enfin, de tenant à une variation un petit peu plus... grande.
Comme aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui il y a accélération parce qu'il y a des gaz à effet de serre.
Oui, oui. Voilà.
Avec Jean-Luc, nous allons reprendre justement l'inventaire
des solutions globales au réchauffement climatique. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM, pour l'émission des périphériques vous parle.
Simplement pour terminer sur ce qui s'est passé il y a 250 millions d'années, suite à cette accélération, il y a donc eu de gros dégagements de méthane. Là, les molécules de méthane, comme celles du CO2 et d'autres gaz à effet de serre, sont plus lourdes que celles de l'oxygène. Par conséquent, l'oxygène qui, avant cette accélération de réchauffement climatique, était de 35% dans l'atmosphère, est tombé à 12%, ce qui fait que les végétaux comme les animaux n'ont plus eu suffisamment d'oxygène, et ce qui a causé cette disparition massive. Et la seule extinction massive d'ailleurs à ce jour. Peu de temps après, sur 20 000 fossiles végétaux postérieurs à cette extinction, en fait, cet examen de ces 20 000 fossiles végétaux a montré que la biodiversité, après cette extinction, était encore plus grande qu'avant. Non seulement il n'y a pas d'extinction massive aujourd'hui, mais la seule et unique raison pour laquelle il ne pourrait rester sur la planète que des bactéries, c'est s'il y avait une évaporation totale des mers et des océans. Alors, auquel cas, l'atmosphère enregistrerait une température d'environ 400 degrés, ce qui évidemment rendrait impossible la vie autre que la vie bactérienne. Alors, pour l'inventaire, donc, aujourd'hui, des solutions, que des comportements humains idoines, réellement idoines, dont il n'est pas toujours question, voire pas du tout question, dans les conférences sur le climat, la 21e et les 20 précédentes. On peut commencer par quelque chose qui est le plus prometteur, même si c'est encore minoritaire aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'alimentation humaine. En effet, face au réchauffement, aux pollutions, etc., l'agroécologie offre une réponse tout à fait adéquate, même si elle représente environ 10% des terres cultivables. Là où elle est pratiquée, le nombre d'espèces animales et végétales sauvages qui sont mêlées à des cultures augmente en moyenne de 34%. Et donc, toutes sortes d'interactions font qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser des pesticides, etc. Proche de l'agroécologie, mais moins connue, l'agroforesterie est également très, très prometteuse. Alors, l'agroforesterie, c'est tout simplement cultiver au milieu de forêts. Alors, par exemple, au Costa Rica, dans certains endroits, ce sont les oiseaux qui luttent contre les ravageurs et qui assurent les pollinisations des plantes et donc de la nourriture qui est produite. En effet, les oiseaux font partie des 200 000 espèces différentes qui aujourd'hui assurent des pollinisations. Donc il n'y a pas du tout besoin d'abeilles domestiques. Alors, par exemple, c'est également le cas, sans aller si loin qu'au Costa Rica, dans le Val d'Oise, à Chaussy, où il y a de l'agroforesterie, 600 essences différentes d'arbres, 100 arbres par hectare, et donc toutes sortes de cultures, dont du blé. L'ouest de la Thaïlande également, la jungle de Sanephong, où 387 fruits et légumes différents sont cultivés de cette manière en agroforesterie, dont par exemple des champignons de 6 cm de diamètre, ou des fruits comme le jacquier, dont chaque individu pèse au minimum 1 kg et au maximum 36 kg par fruit, bon, etc. Alors, dans le même ordre d'idées, il y a aussi le silvio-pastoralisme. Autre piste très, très intéressante, parce que plus les animaux sont élevés dans des forêts, et moins il faut d'animaux pour davantage de viande. Donc ce sont des pistes vraiment tout à fait intéressantes. Épaulées par une deuxième chose, ce sont les redécouvertes des variétés sauvages de fruits et légumes. Alors, pour prendre des exemples, dans deux pays qui ne sont pas du tout de bons élèves en matière environnementale, à savoir les États-Unis et la Chine, aux États-Unis, actuellement, 4600 variétés hein, de fraises, de haricots, de tournesol, de coton, de raisin, patates douces, de millepertuis, etc., hein, sont utilisés. Alors évidemment, pas partout, mais c'est quand même une piste qui peut très bien être développée. Quant à la Chine, hein, elle a comptabilisé plus de 20 000 variétés sauvages encore présentes, hein, et dont 28 ont des gènes d'adaptation. Alors par exemple, hein, le riz, des variétés de riz qui résistent aux particules d'aluminium, ou encore des variétés de soja naturellement surprotéinées, mais également, hein, en Chine, blé, sorgho, banane, mil, pomme, etc. Hein, il y a 20 000 variétés anciennes. Pour prolonger cela, hein, il y a une initiative humaine tout à fait positive, hein, qui est justement de protéger toutes ces variétés anciennes. Actuellement, donc, à Svalbard, un archipel scandinave, sont stockés à 130 mètres de profondeur, hein, et en permanence avec une température naturelle de moins 20 degrés, au cœur du permafrost, des variétés anciennes, hein, de toutes sortes. Alors par exemple, là, il y a 1500 variétés de pommes de terre ayant existé dans les 13 000 dernières années. Il y a également des tomates que les Incas cultivaient, du blé du Pamir, des plantes fourragères de diverses provenances, de l'épinette et du pain de Finlande et de Norvège, 575 variétés anciennes d'orge japonais, des niébés africains, les niébés étant des sortes de pois, des fraises des îles Kouriles, des noix de coco du Sri Lanka, enfin, etc. Alors actuellement, hein, il y a 1 million de graines, c'est-à-dire que le tiers de l'objectif a été atteint, puisqu'il est prévu de distocker à 3 millions de graines, et des essais ont été faits en Irak, en Afghanistan, au Maroc, au Liban, hein, avec beaucoup de succès, hein, pour justement, hein, ne pas seulement stocker, mais tester. Alors, autre, toujours dans ce registre, hein, de l'alimentation, hein, un emploi qui élimine tout pesticide, fongicide, herbicide, etc., hein, c'est l'ozone gazeux. Alors, l'ozone gazeux, hein, c'est très simple, un très grand nombre de personnes, voire la quasi-totalité sur la planète, peuvent apprendre à produire de l'ozone gazeux. Il s'agit tout simplement de dissocier, hein, des molécules d'oxygène de l'air atmosphérique et de les recombiner en ozone. Hein, et pour ça, deux plaques de métal, hein, séparées par une couche d'air atmosphérique suffit. Ce n'est ni nocif et ça permet d'éliminer 95% des parasites des fruits et légumes. À condition évidemment d'apprendre à doser. Ah, mais bon, les dosages, hein, c'est en cours d'achèvement. Hein, quasiment les 9 dixièmes des fruits et légumes qui existent. Les dosages ont été testés, hein, et donc ça, il n'en est jamais question dans les conférences sur l'environnement. Hein, donc c'est dommage parce que ça permet évidemment de faire des conservations, hein, puisque non seulement lors des pousses des fruits et légumes, ça élimine les parasites, mais également pendant les acheminements, pendant les stockages, et même dans les frigos, ça continue. Ça accroît la durée de conservation. Bon, donc le domaine alimentaire, hein, est certainement le plus prometteur. Et puis, il y a d'autres comportements, hein, comme les remarquables résultats obtenus récemment en Californie, hein, où une sécheresse, hein, continue depuis une quinzaine d'années en Californie. Hein. Et donc là, il y a eu des rationnements d'eau menés en association avec pas seulement les autorités, mais également la participation de la population, hein, puisque une police de l'eau a été créée et la population était invitée à envoyer des photos directement à cette police, des photos et des vidéos, hein, via tablette, smartphone, enfin tout ce qu'on veut, décrivant, hein, des gaspillages d'eau, hein, ou des anomalies, etc. La police de l'eau coupait alors tout de suite l'eau chez des particuliers, des entreprises, peu importe, et ensuite discutait avec eux pour un retour à la normale. Et ça a donné des résultats, hein, que jamais l'espèce humaine n'a obtenus, ni pour les gaz à effet de serre, ni pour l'électricité, ni pour quoi que ce soit, hein, puisque en quelques mois, la consommation d'eau en Californie a diminué de 27%.
Ah oui, c'est considérable. Hein.
Donc ce qui montre que quand on associe la population avec certes des modes opératoires un peu contraignant, mais on peut très bien faire tout ça à l'échelle planétaire avec n'importe quoi, hein, des émissions de gaz à effet de serre, de l'électricité, etc. Ça aussi, hein. Alors pourquoi est-ce si important de rationner parce que actuellement sur la planète, hein, il y a environ 30 millions d'espèces et ces 30 millions d'espèces regroupent, hein, en extrapolant le seul comptage qui a été fait, les 13 000 espèces de fourmis qui en permanence regroupent 10 millions de milliards d'individus sur la planète.
10 millions de milliards.
10 millions de milliards, rien que pour les 13 000 espèces de fourmis. Mais il y a 30 millions d'espèces en tout. Donc il faut multiplier environ par 4. Hein. Ce qui fait qu'en permanence, il y a 40 millions de milliards d'individus sur la planète. Hein. Végétaux, animaux, macroscopiques, microscopiques, peu importe.
Heureusement que ce sont des fourmis. Hein.
Donc, non, mais en tout. Hein. En tout. Et donc, à peu près 6 millions de fois plus qu'il n'y a d'êtres humains. Et donc, évidemment, hein, que tous ces organismes vivants, s'ils ne pratiquaient pas le rationnement, il y a bien longtemps qu'il n'y aurait plus de ressources naturelles. Donc, l'espèce humaine a à se calquer là-dessus. Hein. C'est-à-dire que, comme le montre l'exemple californien, en fait, hein, c'est beaucoup plus ça, un comportement vraiment écologique, hein, que de développer des technologies dont on a vu dans la première émission qu'elles étaient vaines. Alors, à titre d'exemple, hein, il a été découvert récemment dans les mouches du fruit un gène, hein, spécifique qui leur intime de se restreindre pour la nourriture. Et donc, il est très probable, hein, que l'ensemble des champignons d'espèces ont ce genre de choses. Alors ensuite, hein, on peut également prendre exemple sur quelques comportements dispersés, mais néanmoins extrêmement pertinents, extrêmement efficaces. Alors, par exemple, un certain nombre d'abandons et de renoncements. Sur une plage, hein, de l'île de Guam, hein, dans l'ouest du Pacifique, de l'océan Pacifique, hein, là, il a été décidé de ne pas construire d'hôtel supplémentaire, mais de mettre du vétiver. Ça, c'était en 2011. Hein, et le vétiver est un très bon choix, hein, puisqu'il empêche l'érosion, il absorbe les pluies torrentielles, et notamment celles des ouragans.
Alors le vétiver, qu'est-ce que c'est ?
Alors le vétiver, hein, c'est simplement une plante qui ont des racines qui font 3 mètres de profondeur. Chaque pied vit 50 années. Ça forme des haies épaisses et de grandes touffes. Et donc, hein, c'est une protection très efficace contre les tsunamis. Et puis également...
Contre les tsunamis ?
Bah oui. Bah oui, ça les ralentit. Si vous avez une plage avec du vétiver... Là, derrière ça, hein, c'est, eh bien, le tsunami, il y aura très peu d'eau. Hein, enfin, il y aura un peu, mais en revanche, si vous avez une plage avec en bordure des immeubles, évidemment, oui, parce que entre les immeubles et des vitivers, il n'y a pas photo.
C'est résistant.
Voilà. Hein, et en plus, hein, les vitivers contiennent des terpènes qui sont des insecticides naturels. Et donc, évidemment, ils ne sont pas attaqués par ravageurs et autres choses. Alors, voilà un exemple, hein, d'un comportement tout à fait remarquable. Alors pourquoi est-ce que c'est important, hein, particulièrement sur les côtes ? Ben parce que c'est là, en fait, hein, en bordure des linéaires côtiers, que se trouvent les meilleures technologies de la nature pour absorber le CO2. Alors, un seul exemple, les forêts de varech. Les forêts de varech, si elles étaient plus nombreuses sur la planète, elles sont capables d'absorber 13 500 milliards de tonnes de CO2, soit 12 fois ce qu'il y a dans l'atmosphère actuellement. Aucune technologie humaine ne peut permettre cela. C'est la même chose avec les herbiers sous-marins. 1 km carré d'herbiers sous-marins absorbe 83 000 tonnes de CO2 par an, alors qu'un kilomètre carré de forêt n'en absorbe que 30 000. Bon, donc, si l'espèce humaine abandonnait, hein, et détruisait beaucoup d'infrastructures côtières, et pour mettre à la place, hein, ces deux écosystèmes et beaucoup d'autres, hein, sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre, mais elle résoudrait sans problème, hein, l'absorption de la totalité du CO2 dans l'atmosphère. Alors, autre exemple, hein, quand l'espèce humaine abandonne des mines, alors, par exemple, des mines de nickel, hein, de palladium, de cuivre, de diamant, de platine, etc. Ces abandons, hein, ne sont pas perdus pour tout le monde, puisque dans les déchets miniers, hein, qui ne sont plus du tout exploités, qui sont laissés là, hein, eh bien, sont présentes de grandes quantités de carbonate de magnésium. Et le carbonate de magnésium est un très bon absorbeur hein, quand il est laissé comme ça, de CO2 atmosphérique, hein, parce que selon la taille des mines abandonnées, hein, les plus petites, chaque année, 50 000 tonnes de CO2 sont absorbées par ces déchets miniers, et les plus grandes, 5 millions de tonnes de CO2 atmosphérique sont absorbées. Donc, en fait, hein, ces abandons hein, sont tout à fait prometteurs. Hein, c'est à ça qu'il faudrait pousser beaucoup plus qu'à créer toujours de nouvelles infrastructures. C'est la même chose, par exemple, avec les barrages. Hein. Lorsque des barrages sont abandonnés, hein, il y a eu des observations aux États-Unis sur des démantèlements de barrages et ce qui se passe ensuite. Par exemple, dans l'Oregon, hein, un état du nord-ouest des USA, il n'a pas fallu plus de 2 ans pour que, une fois qu'un barrage a été abandonné, il y ait exactement la même biodiversité que ce qu'il y avait avant la construction du barrage. Et même chose hein, dans l'est des USA, hein, dans le Maine, où, suite à l'abandon d'un barrage, une espèce disparue depuis plus de 100 ans a refait surface, hein, à savoir les sturgeons dits à museau court. Donc en fait, hein, toutes ces restrictions, tous ces abandons, tous ces renoncements, c'est ça les pistes, vraiment. Et laisser les technologies de la nature à la place. Alors on peut aussi citer, hein, dans le même ordre d'idée, quand il y a de la silviculture, par exemple, quand il y en a eu en Nouvelle-Zélande, avec le pin de Wilding, quelques milliers d'hectares ont été plantés il y a plusieurs décennies, puis après ça a été laissé à l'abandon. Mais en fait, hein, à l'abandon, pour et par les humains, mais la nature, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? De quelques milliers d'hectares, aujourd'hui, ça représente 1 million d'hectares. C'est-à-dire que par la coopération hein, d'un champignon hein, qui pousse sur ses racines de pin, et ces pins donc, tirent une partie de leur nourriture, hein, de ces champignons, mais également toutes sortes de mammifères, hein, dont des mammifères en écomigration. Hein. Alors des cerfs, des opossums, des hérissons, des sangliers, etc., mangent ces champignons, et puis bien sûr, hein, comme tous les herbivores, eh bien, ils excrètent hein, un certain nombre de spores qui sont encore viables, et les graines des pins et les spores se rencontrent, et évidemment, tout ça s'étend. Donc en fait, hein, même quand... Que ce soit une installation industrielle hein, ou une installation, disons, avec une nature un peu artificielle comme la sylviculture, quand il y a abandon, automatiquement, des écosystèmes se réorganisent. Et comme les écosystèmes, hein, avec des, par exemple les herbiers sous-marins, les forêts de Varech, sous-marines de Varech et d'autres, sont beaucoup plus efficaces pour absorber le CO2, bah, en fait, les solutions, elles sont là. Évidemment, hein, l'espèce humaine doit démonter pas mal d'infrastructures, mais si elle ne le fait pas, bah, malheureusement, ce ne sont pas ces technologies qui lui permettront...
Oui, ce que nous avions vu, l'enfouissement voilà. Du CO2...
Voilà. Tout ça, à côté des technologies de la nature, ça n'a aucune efficacité. Et ça coûte très cher. La nature, c'est gratuit. Il ne faut pas l'oublier.
Merci Jean-Luc pour la description de ces perspectives qui sont étonnantes. Effectivement, dont on débattra guère, j'imagine, et dont on a guère débattu durant la COP21.
Non, c'est voilà. Clair. C'est clair. Donc, c'est clair, hein, puisque malheureusement, hein, mais enfin, c'est pas tout à fait un hasard non plus. Hein, le GIEC, qui pilote donc un petit peu par ses comptes rendus, hein, ses rapports, toutes ses conférences, le GIEC a été enfermé. Volontairement, hein, uniquement dans le climat, les gaz à effet de serre, etc. Il n'y a pas du tout eu d'ouverture vers les écosystèmes. Et donc, si toutes ces conférences sont enfermées dans les gaz à effet de serre, le climat, en ignorant totalement la nature, automatiquement, les solutions sont seulement technologiques. Alors que si on prend en compte tout, ben là, on s'aperçoit que les solutions, elles sont plutôt... De restreindre hein, beaucoup d'infrastructures, d'installations humaines hein, pour permettre aux écosystèmes justement de régler les problèmes.
Ainsi se termine donc cette émission consacrée aux solutions globales au réchauffement climatique. C'était la deuxième de la série. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM. Bonjour, Bat.
Bonjour.
Voilà, donc vous avez créé un site internet.
Voilà, un site internet grâce à WordPress, hein, au logiciel WordPress. C'est un logiciel qui permet, sur internet, qui permet de faire des blogs. Et moi, j'en ai fait une vitrine site internet avec des menus, enfin normal, quoi.
Ouais. Et donc, alors c'est un site qui s'appelle Virtualisme. Et avec une description assez intéressante qui concerne l'étude du subjectif à l'heure du progrès technologique et du capitalisme mondial.
Exactement, voilà. Alors, effectivement, alors le virtualisme, c'est un mouvement intellectuel et artistique, et bien évidemment donc, puisque intellectuel politique, qui étudie la subjectivité humaine à l'heure des progrès technologiques et du capitalisme mondialisé. Et donc, cette étude du subjectif part du constat que depuis les progrès technologiques en symbiose avec l'économie mondialisée actuelle, la subjectivité n'est plus du tout la même et n'a plus exactement les mêmes caractéristiques qu'à une certaine époque où la façon dont on recevait les informations s'effectuait.
D'accord.
Donc... cette étude, elle part du constat que, à travers un ensemble historique de la connaissance et de l'économie, donc de la géopolitique mondiale, la subjectivité a d'abord accumulé un certain héritage cognitif, ça veut dire avec les avancées philosophiques, mythologiques, religieuses, et scientifique, c'est-à-dire toutes les formes de sciences. Déjà l'accumulation de cet héritage d'un point de vue des connaissances et des sagesses humaines, et ensuite l'héritage du capitalisme et de son histoire guerrière, qui a aussi influé sur les avancées cognitives, donc de la connaissance de l'homme, en fait.
D'accord.
Et donc, ces progrès technologiques ont influé à la commercialisation de certains objets technologiques, qu'on peut appeler, comme Edgar Morin le dit, les technosciences. Et donc, cette subjectivité a pour prothèse un ensemble d'objets qui correspondent aux progrès technologiques liés aux avancées scientifiques, et pourquoi pas le dire, oui, aussi mythologiques et religieuses.
D'accord.
Voilà. Et donc, on pourrait, selon un petit essai qui est disponible sur le site internet, appeler le virtualisme, appeler la subjectivité comme étant une subjectivité virtuelle ou une super subjectivité, parce que la façon dont on accumule les informations actuellement a des prothèses, un ensemble de prothèses qui favorisent soit les réseaux sociaux, soit les réseaux professionnels, socio-professionnels et socio-économiques, ou soit les réseaux, ou soit la façon dont on accumule les connaissances. Par exemple, une imprimerie à une époque pouvait, pour imprimer un journal ou encore des livres, ça demandait pas du tout le même temps de travail et le même temps de production que ça le demande aujourd'hui.
Ouais.
Donc, pour aujourd'hui s'instruire dans un ensemble de connaissances qui est lié à l'héritage humain, rien que par le biais de l'impression numérique de livres, ou même la numérisation des ouvrages, il y a une capacité pour s'informer qui n'est plus du tout la même. Alors, lorsque ces progrès technologiques sont en symbiose avec l'économie, ça donne aussi un ensemble de désastres écologiques, mais aussi un travestissement de ces avancées et de cet héritage humain. Et donc, cette subjectivité va être travestie, cette super subjectivité qu'on peut cataloguer comme étant virtuelle, va être en même temps travestie par les impératifs de rentabilité ou les impératifs de profit d'une économie qu'on dénomme le capitalisme mondial et qui a toute une histoire qui est liée même à une civilisation ancestrale qu'on peut appeler comme étant Babylone. C'était une civilisation qui avait duré plusieurs millénaires dans le Moyen-Orient, si je ne m'abuse, enfin dans l'Orient, au Maghreb, hein, proche de Jérusalem, de l'Irak, etc. Et donc cette civilisation qui avait été des millénaires, qui avait apparemment été... Qui était une civilisation qui était à l'origine même de grands penseurs égyptiens ou Aristote, etc. si on veut, on pourrait dire que le capitalisme est une forme moderne de Babylone, on pourrait dire, puisque c'est une civilisation qui a une mainmise mondiale sur l'ensemble des civilisations pluriethniques ou pluriculturelles. Et donc, cette civilisation est fondée sur un impératif économique qui est donc la rentabilité pour les entreprises qui doivent rembourser les dettes ou le profit. Ouais. Et donc, lorsqu'une connaissance, un héritage scientifique ou technoscientifique, c'est-à-dire l'application de progrès scientifiques dans la matière, c'est-à-dire pour faire des biens et des services, lorsque cette économie influe sur ces avancées scientifiques, ça crée encore une distorsion sur la subjectivité qui est déjà virtuelle à travers les progrès technologiques, mais qui va être en plus travesti par le capitalisme mondial et donc qui va nécessiter, selon moi, à travers un mouvement artistique, une étude du virtuel pour comprendre les parts néfastes, on va dire, les parasites du subjectif à travers le capitalisme mondial et les faces vertueuses. En tant que virtualiste, c'est justement ce qui est étudié à travers le virtualisme. Alors le virtualisme a plusieurs formes d'études. La première étude va être... Ça va être l'origine de la science cognitive, c'est-à-dire de la façon d'appréhender le monde d'un être humain qui va être proche de la mythologie, de la poésie et de la religion. Donc que ce soit au niveau des animismes pluriethniques ou que ce soit au niveau des mythologies, on va dire, les plus dominantes qui priment aujourd'hui dans notre héritage humain. Et l'autre subjectivité va être l'étude de la psyché, c'est-à-dire vraiment une étude du subjectif pur. C'est-à-dire à n'importe quelle époque, on peut remarquer que le subjectif, c'est cela. Et donc, la troisième étude, ça va être l'analyse de l'économie actuelle. Et donc, l'économie actuelle, comme il a été dit par beaucoup, beaucoup, suite à la chute du mur de Berlin, par beaucoup d'économistes comme étant économie de marché, c'est aussi une étude qui est effectuée par le virtualisme. Et donc, on a remarqué que d'abord, il y a une oligarchie. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a une minorité d'individus dans le monde hein, qui représentent approximativement 1% de la population mondiale, qui représentent la majorité des richesses on va dire, les miséreux dans le monde. Hein. Ça, c'est la première chose. Donc, on pourrait dire qu'il y a une cellule dans une pyramide segmentée. Alors, cette pyramide qui est segmentée, c'est que il y a un ensemble de PME et de PMI, c'est-à-dire de petites industries, qui vont être sous-traitantes d'une cellule oligarchique. Oligarchique, c'est-à-dire des grands milliardaires hein, ou millionnaires, qui vont financer avec des forts capitaux des commandes pour des produits, des biens et des services. Alors, d'abord, ce qu'on peut remarquer dans cette économie de marché, c'est que l'ensemble des associations, des initiatives individuelles, des collectifs ou encore des initiatives artisanales vont être la plupart dénuées de ces capitaux et vont donc être en relation avec des crédits bancaires qui vont souvent avoir une politique de dette, c'est-à-dire une politique d'accorder un crédit à une entreprise qui va chercher à être indépendant. Donc, cette économie de marché aussi, pourquoi elle a été appelée économie de marché? Alors, la première chose, c'est que avant, il y avait des énormes industries telles que Renault, etc., qui étaient, il y avait prolétaires et classe bourgeoise, c'était les clivages étaient clairs. Maintenant, il y a plusieurs strates de classe, tout d'abord, qui ont été segmentées par l'INSEE. On peut remarquer les SDF, les ouvriers, le secteur tertiaire, quaternaire pour le numérique, et aussi tous les secteurs artisanaux indépendants, associatifs. Mais aussi, on peut remarquer que la plupart des États mondiaux vont avoir un capitalisme, c'est-à-dire des interventions étatiques avec prélèvements obligatoires, des politiques nationales qui vont être différentes selon les États-nations. Première définition, un ensemble pyramidal de sous-traitance pour des oligarchies, donc qui sont pas la marque de l'oligarche, de l'industrie oligarche, et donc qui vont faire des commandes pour les oligarchies de façon, on va dire, proche de l'escalier. Deuxième définition, plusieurs économies avec politiques étatiques différentes selon les États-nations, c'est-à-dire que les capitalismes ne sont pas les mêmes selon les nations, et qui s'adaptent d'ailleurs aux cultures et aux résistances de chaque nation. Et ensuite, le rapport Nord-Sud du capitalisme mondial, c'est-à-dire du rapport avec les banques et à l'endettement, c'est-à-dire les rapports à l'endettement dans les rapports Nord-Sud, comment vont s'effectuer l'ensemble des crédits pour les nations et les industries sous-traitantes des pays qui n'ont pas les mêmes politiques que la politique française ou la politique espagnole ou la politique allemande, etc. Donc je pense que le fait que ce soit appelé économie de marché, c'est que le contrôle, c'est-à-dire pour fixer une cible, on va dire, de responsable du capitalisme, cela devient très difficile, parce que chaque élément de ce capitalisme va servir en tant que sous-traitant à la production globale des biens et de services. Voilà. Je pense que c'est pour ça que ça a été appelé économie de marché, parce qu'on n'arrivait plus à placer un centre, malgré que les oligarches aient de forts capitaux, sur les responsables politiques ou idéologiques ou d'instances de production du capitalisme. Par contre, dans ces analyses, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans l'économie mondiale, malgré que le centre soit moins défini, on remarque, malgré les politiques aussi idéologiques des États-nations différentes selon les nations, qu'il y a une symbiose parfaite dans l'économie mondiale. Ça veut dire que l'ensemble des commerces mondiaux et des flux de transport qui sont effectués dans le monde vont être en accord total. Et donc, on pourrait en conclure que les politiques des États-nations ont un désaccord diplomatique politique et un accord total en symbiose économique. Et donc, ça crée encore une volonté encore plus grande d'appeler cela économie de marché. Pourquoi ? Parce que y a un désaccord diplomatique des pays, et donc politique, c'est-à-dire idéologique, etc. Mais économiquement, les flux de commerce et d'échanges s'effectuent totalement, presque librement. Et donc, ça empêche, encore une fois, de pouvoir politiser l'économique du capitalisme mondial. Donc, il a, sans compter, après, on ne compte pas là-dessus, avec les crédits bancaires, toute la phase financière qui fait que les accords des crédits politiques influent aussi sur les politiques des États, notamment lorsqu'ils ont une faible armée et qui ont bouffé, malheureusement, pour la plupart des pays tiers-mondistes ou quart-mondistes, des coups d'État, lorsque dans leurs rapports ex-coloniaux, ils avaient instauré démocratiquement des chefs d'État à tendance socialiste.
D'accord. Alors, Bat, pour, pas conclure, mais ouvrir pour que les auditeurs et les auditrices puissent découvrir ce site, qu'est-ce qu'on y trouve ?
Alors voilà, vu que c'est un mouvement artistique, son but est de vulgariser un ensemble de problématiques subjectives. Et donc pose la question de l'imaginaire, d'abord, pose la question du subjectif, le subjectif, l'imaginaire étant intégré dans le subjectif, et donc à travers un ensemble de supports d'expression artistique, esthétique ou conceptuelle, un ensemble d'œuvres vulgarisées offre aux personnes la capacité de comprendre leur situation subjective pour mieux comprendre subjectivement le monde dans lequel il se trouve, à travers aussi des instances de divertissement, puisque artistique, ça veut dire des expressions qui puissent être ludiques pour le récepteur des informations esthétiques et artistiques et intellectuelles et politiques. Donc, on retrouve plusieurs rubriques. Il y a une rubrique qui propose... proche d'André Gorz d'ailleurs, c'est-à-dire proche du revenu social garanti, des alternatives mondiales, donc un altermondialisme, à travers des œuvres picturales qui s'appellent systémisme artistique. C'est le premier menu. Donc dedans, il y a un ensemble de propositions politiques qui ont été un peu plus poussées qu'André Gorz, c'est-à-dire sans... voilà, André Gorz, moi, je suis formé par André Gorz et même Jean Zain, mais il y a quelques propositions qui sont un peu plus poussées, c'est-à-dire plus détaillées dans la théorie de la proposition politique, mais avec des dessins, des illustrations, des peintures. Et sinon, il y a un manuscrit qui s'appelle « Nomadisme de la conscience », qui est donc des schématiques systémiques, proche d'Edgar Morin, qui fait, vous savez, qui fait les petits systèmes dans la méthode, ses ouvrages de la méthode. Bah, c'est la même chose, mais beaucoup plus détaillé. C'est du systémisme très détaillé, donc c'est des circuits qui font la roue. Et donc, comprendre à travers des schématiques ce qui se passe au niveau mythologique, au niveau subjectif, au niveau social, au niveau économique, etc. Sinon, il y a un menu littérature et poésie. Donc, il y a des recueils de poésie qui travaillent sur l'analogie sauvage. Par exemple, ça veut dire les associations libres qui sont effectuées très souvent par les animismes ethniques. Donc, il y a un travail qui s'appelle Adam qui travaille ça, qui présente la problématique de l'association libre. Donc, il y a des livres de recueil, des poésies qui sont une sorte de pédagogie aussi du travail de la subjectivité. Hein. Il y a des livres intellectuels qui présentent toute une analyse de plein de problématiques subjectives, notamment on pourrait citer la chimère, les chimères, c'est-à-dire les mythes féodaux des chimères, pourquoi il y a eu des animaux mythiques, qu'est-ce qui représentait symboliquement dans les civilisations occidentales. L'analyse de la superstition, pourquoi la superstition, qu'est-ce que ça avait comme logique rationnelle dans le subjectif. Des essais qui présentent aussi, il y a une cryptographie virtualiste du rêve, parce que selon l'étude virtualiste, la différence entre le rêve et le réel, c'est la douleur et la mort. Sinon, on pourrait dire actuellement qu'à l'état actuel de l'héritage humain et naturel, les caractéristiques de l'onirisme sont équivalente entre la dimension de rêver et la dimension subjective du réel.
Ben merci à vous, Bat.
Ben, en vous remerciant également.
Et puis donc, à bientôt.
Merci bien.
Au revoir.
Au revoir.
Donc, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM. Ainsi s'achève cette émission des Périphériques vous parlent.